azzurri.
Via, via. Madame, monsieur, bonjour. Cette fois, nous y sommes. Nous vivons les toutes dernières heures d'une année qui a été difficile pour plusieurs d'entre vous, avec des points délicats, mais heureusement, avec aussi des jours de bonheur et de retrouvailles. Pour terminer 2024 et penser à la nouvelle année 2025, comme toujours, je vais vous proposer et vous présenter des romans, des policiers, où le sang, les tueurs, les armes seront très présents, mais des romans noirs qui vont vous faire frissonner pendant leur lecture. Ils seront d'auteurs italiens et français. Et puis, hors des sentiers battus, il y a ses ouvrages, ses essais. Je vais vous en proposer un également, ainsi qu'un livre d'histoire. Tout le monde, d'ailleurs, a des souvenirs qui sont liés à la lecture, que ce soit lors de l'apprentissage, en vacances, les piles de lecture insurmontables à l'université, ou bien encore le plaisir facile d'un bon livre à lire le week-end ou en vacances. Commençons par cet ouvrage. L'auteur est italienne, née dans les Abruzzes. Considérée comme grande auteure italienne contemporaine, ses romans ont tous été largement récompensés et d'ailleurs, aujourd'hui, nous pouvons nous pencher sur la trame littéraire de son tout dernier titre, « L'âge fragile » de Donatella di Pietantonio, traduit de l'italien par Laura Brignon. Lucia, notre héroïne, n'a jamais quitté son village des Abruzzes. Pourtant, pendant 30 ans plus tôt, elle a été témoin, non oculaire, mais présente dans l'esprit, d'un crime terrible de trois adolescentes. Aujourd'hui, sa fille Amanda, partie étudier à Milan, est de retour auprès d'elle. La mère l'ignore, mais celle-ci a subi des violences physiques dans cette ville. Aussi, la jeune femme ne quitte pas sa chambre et s'enferme dans un silence très inquiétant. Même le grand-père ne peut obtenir d'elle des propos ou des paroles. Pratiquement impuissante face à la détresse de sa fille, Lucia alors est confrontée une nouvelle fois à de très difficiles et douloureux souvenirs. Le drame d'ailleurs qu'elle a tout fait pour oublier ressurgit alors dans sa vie. Tout est lié au camping, désormais fermé et qui appartient à sa famille. La population du village s'éloigne aussi depuis le drame. Arrivera-t-elle à reconstituer par la pensée les faits qui se sont passés durant la soirée et la nuit des crimes? Entre passé et présent, cette trame littéraire explore la fragilité des relations familiales et les liens puissants avec les Abruzzes où se mêlent la beauté et la sauvagerie de la nature. Magnifique! Ce roman captivant, exceptionnel, est devenu un phénomène en Italie en recevant à la fois le prix Strega et le prix Strega Giovanni, équivalent respectif au prix Goncourt et au prix Goncourt des lycéens. Vivement recommandé, ces 255 pages, et comme d'ailleurs le mentionne la presse italienne, l'auteur aborde cette histoire en utilisant les ressources de plus en plus rares dans le récit contemporain, qui sont la pudeur et la délicatesse. Cet ouvrage est paru chez l'édition Albin Michel et vous pourrez l'acquérir pour 20,90 €. Ici, un splendide roman, un thriller rempli d'atmosphère sombre, une histoire de meurtre fort bien décrite, remplie de surprises, un polar à lire absolument. L'auteur, Michel Pandinielli, né à Nice, un mélange corse et italien, est romancière. L'ensemble de sa série a été créé autour du superbe personnage Boccanera, cette femme si singulière. La romancière a été lauréate et largement récompensée par plusieurs prix depuis ses longues années. Le titre de son livre, Un seul œil. Nice, dans cette ville intentinée défigurée par des chantiers gigantesques, le sol vacille sur les pieds de Giulia Boccanera, surnommé Diu, parce que comme vous l'avez saisi, son prénom est un tantinet difficile à prononcer. Dan, son âme sœur, est plongé dans un coma après un accident fort suspect. Il a été retrouvé inconscient au prix d'une échelle dans sa galerie. Un autre événement tragique qui touche cette fois-ci l'un des leurs, plus particulièrement le commandant Santucci, la femme de ce dernier a été tuée au petit matin. Il venait de partir pour le commissariat et c'est une voisine qui alerte dans un premier temps la police. Diu connaît parfaitement ces deux personnages et la détective privée alors se lance dans une enquête concernant ces agressions. Elle sera un temps épaulée, au moins émotionnellement, par une tenancière des Spicassi de la mode dont les artistes singuliers visitent régulièrement son âme sœur, toujours dans le coma, à l'hôpital. Ces derniers laissent des messages au pied du lit et du patient. Il y a aussi Gabriel, un agent de renseignement qui a eu une liaison depuis quelques tons avec Dan, mais qui est très épris de ce dernier. Ensemble, ils travaillent, se confient sur les avancées de leur enquête. Puis, sa vieille voisine, habitant l'étage sous elle, au troisième étage plus exactement, doit être hospitalisée. Et le frère de cette dernière demande à Diu si elle peut s'occuper de Mila. Une vieille chienne qui a été rescapée de l'enfer, récupérée d'ailleurs par Diu et son ami Sambucci. Elle a été sauvée d'un élevage intensif totalement infâme. Diu accepte, il va de soi. Elle connaît parfaitement la chienne et surtout la maîtresse et sa maîtresse qui s'en occupent depuis un certain temps. Aussi, maintenant, après les promenades quotidiennes avec Mila, qui est confiée par la suite de la journée à Sambucci, qui est totalement éprouvé par la perte de son épouse et qui était incapable de vivre seul. Il vit d'ailleurs chez cette dernière. Elle organise sa journée avec des visites des deux malades, Dan et sa voisine, hospitalisée dans deux hôpitaux différents. Un personnage est souvent évoqué, un bellâtre, William, ex-amant de Dan, superbe beau gosse, qui ne semble néanmoins relativement pas net du tout dans la conduite au quotidien. Dans ce roman sont évoqués aussi largement les arts, avec la peinture, la photographie, sujet d'ailleurs magnifiquement bien développé et maîtrisé. Un texte totalement passionnant que l'on ne peut quitter dès la première page. Je vous le recommande vivement. Ici, 280 pages qui ont paru aux éditions L'Aube et que vous pourrez acquérir pour 18,90 €. Et l'on terminera cette série de trois policiers romans avec ce dernier titre, qui est une histoire sombre, mystérieuse et profondément troublante. L'histoire est cruelle, cruciale et complexe, tragique, émouvante, mais terriblement perturbante aussi. Cet artiste, d'ailleurs, qui ne peint que la souffrance des autres, les mutilations et la mort, est souvent très dérangeant. Le titre de l'ouvrage « Vita » de Julia Brandon. La romancière d'origine marseillaise tisse ici un récit étrange à la fois d'amour et de rédemption où la lumière des ténèbres s'entrelace dans un ballet tragique et mortifère. Autumne est une jeune femme brisée par la cruauté de son frère. Jonas, peintre, est très pervers et tortionnaire. Il n'a d'ailleurs pas hésité à mutiler sa propre mère ainsi que son frère adoptif, les tuant, afin de créer des scénarios terrifiants pour ses toiles, qu'il vend ensuite à un mystérieux commanditaire. Autumne tente de fuir ce destin qui la poursuit sans relâche, car son frère, d'ailleurs, n'hésite pas à lui provoquer des blessures qui retracent ensuite sur la toile. Lors de sa fuite, après des recherches subtiles, elle retrouve ce mystérieux acheteur. Il se prénomme Christ. Il s'agit d'un artiste déchu, hanté lui aussi par ses propres blessures et dont une œuvre magistrale lui a été dérobée, d'ailleurs, par Jonas, le frère de cette dernière. Cette rencontre bouleverse la vie à tout jamais de la jeune femme. Ce dernier est lui-même très malade. Il se consume d'un feu intérieur et n'a plus longtemps à vivre. Entre eux naît alors une relation puissante, faite d'amour, de pardon, d'espoir. Chris est rongé par un passé. Il offrira à Autumne l'unique échappatoire à son enfer, la promesse d'un amour absolu et lui déléguera un don merveilleux permettant la renaissance. Dans un univers où la souffrance, la douleur sont les vérités, l'auteur explore des liens indéfectibles qui se créent dans l'ombre et le désespoir. Autumne et Chris sont unis par un destin cruel. Parviendront-ils réellement à échapper à l'emprise de la fatalité ou seront-ils jamais emprisonnés dans le labyrinthe de leur propre passé? Surprenant, déroutant aussi, un thriller de 225 pages que l'on présente comme un roman. Mais quel roman ! Il est cruel, dramatique. Il est paru aux éditions Les Auteurs du Livre. Et puis, comme annoncé, vous aurez ce livre d'histoire. Il est écrit par un docteur en philosophie et agrégé de philosophie, Frédéric Gros, qui enseigne les humanités politiques à Sciences Po. Il a publié d'ailleurs plusieurs titres. Pour cette rentrée littéraire, il nous propose un superbe ouvrage sur l'histoire chrétienne. Il s'agit de la première histoire. Premier siècle après Jésus-Christ, fasciné par les discours enflammés de Paul de Tarse, Théocla, une jeune aristocrate de la colonie romaine, Iconium, décide de rompre ses fiançailles et de suivre l'apôtre et de faire de sa virginité un véritable acte de résistance. Sauvé miraculeusement du bûcher, puis des fauves, sur le point de la dévorer, s'auto-baptisant malgré la menace, elle devient alors l'étendard brandi par le peuple des femmes. Iconoclaste, subversive, elle devient une réelle figure gênante pour l'Église naissante et les chefs de communauté. sentant le danger qui monte alors, décide de réagir. On a oublié la première martyre, celle qui leva le peuple des femmes, on l'a refoulée, occultée, on l'a dissimulée. L'auteur a fait plusieurs recherches pour connaître réellement cette histoire sur la première martyre de l'histoire chrétienne. Il précise et donne beaucoup d'indications, comme celle-ci, que la cathédrale de Milan repose sur la basilique de Théocla, qui date des premiers siècles. 210 pages environ de l'histoire que certains savants présentent comme le premier récit chrétien à avoir circulé par écrit de cette personnalité majeure et pourtant occultée, racontée aujourd'hui par l'auteur dans un roman totalement passionnant, habité et puissant. Il est paru aux éditions Albin Michel et vous pourrez l'acquérir pour 19,90 €. Et puis, chers auditeurs, on terminera avec cet ouvrage de Renaud Skazne. Il a exercé une petite dizaine de métiers avec le même bonheur. Il a été journaliste à La Croix, aux Échos, puis critique de jazz. Il a été également photographe, assurant ainsi les clichés de ses propres reportages. Puis, il a été conseiller pour la communication et responsable du service de presse du Premier ministre, qui était alors Jean-Marc Ayrault. Il est devenu ensuite directeur de la communication des grands groupes industriels. Durant tout ce temps, il n'a cessé d'enseigner à Sciences Po et depuis peu également à l'ISCOM. Également, il est consultant en communication et a publié plusieurs titres. Ne mentionne-t-il pas la difficulté de travailler dans la communication, c'est que chaque homme, parce qu'il sait lire, écrire et parler, est persuadé qu'il sait communiquer. Du coup, pour nous autres, les professionnels de la profession, il faut déployer des trésors d'imagination pour dire au client, sans l'insulter, qu'il ne sait rien, qu'il n'est rien sans nous et que l'on a affaire de lui un être ou une organisation en plus exceptionnelle. Pour ce faire, la première chose que l'on apprend en agence, c'est qu'il est très important de ne pas parler la même langue que le client. Il faut parler en mode expert, puisqu'il nous paye pour ça. Excellent propos. Et d'ailleurs, dans son titre qui vient de paraître, L'épaisseur du trait, il mentionne « Il y a des jours où l'on a autant envie d'aller au boulot que Jésus de monter sur la croix. C'est ce que je me disais en claquant la porte de chez moi pour me rendre au bureau. Ce n'est peut-être pas de la lassitude finalement, mais je pense que c'est de l'usure. » À 44 ans, l'usure de répéter inlassablement les mêmes choses peu intéressantes à des personnes souvent inconsistantes et parfois nuisibles, celle d'avoir le sentiment profond de rien de tout cela n'est utile. Si je disparaissais demain et que l'on ne me remplace pas, cela n'aurait aucune incidence pour aucune des entreprises que j'accompagne dans mes missions. La remarque vaut pour être presque pour tous les gens que je croise au travail, à quoi sont-ils socialement utiles? La réponse est tragique. À rien. Vous l'avez deviné, ici une satire de rôle atique de l'entreprise et du capitalisme. Le titre est un hymne à ceux qui rêvent de réenchanter le monde qui court à sa pure perte. Il précise toujours, « J'ai eu l'idée de cette histoire juste après avoir publié un premier roman en 2011. J'avais achevé de diverses recherches et autres travaux préparatoires. Quand un premier bouleversement dans ma vie professionnelle en 2012, puis un second en 2014, ont fait que je n'ai pas pu m'y consacrer avant l'été qui a suivi le premier confinement en 2020. Durant cette petite décennie, les bouleversements socio-économiques se sont amplifiés, rendant selon moi le sujet du livre encore plus prégnant. Je vous conseille, pour ma part, vivement ces 330 pages qui ont paru aux éditions Héliopole et que vous pourrez acquérir pour 24 €. Et je terminerai, chers auditeurs, avec cette citation de Saint-Exupéry, « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes fêtes pour vous et votre cellule familiale avec toujours la compagnie de nos ondes. À la semaine prochaine, au revoir.